CJSO 101.7. Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu, du comité des usagers Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. Tête première, l'émission où les débats font avancer les choses. Voici votre chef d'orchestre, Denis Marion, à CJSO. C'est Tête première.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Tête première, ici Denis Marion. Je suis toujours heureux d'accueillir plein d'invités qui ont des choses intéressantes à dire, à raconter, à nous, qui nous aident aussi à comprendre des réalités qu'on vit dans la région. Je pense que c'est le cas aujourd'hui, parce qu'une bonne partie de l'émission va être consacrée à la façon dont la question du soutien aux citoyens en situation d'itinérance se pose chez nous. On a la chance, vous le savez, de pouvoir compter sur l'expertise qui s'est développée au fil des ans, entre autres à la Porte du Passant, mais aussi de voir que les autorités politiques, et c'est le cas du député Jean-Bernard Raymond, qui est avec nous à l'émission aujourd'hui, du maire de Sorel-Tracy également, qui se sont montrés sensibles aux enjeux de cette question. Alors, on va faire ensemble le tour, on va en parler comme il faut, on va essayer de comprendre. Puis, Jean-Bernard Raymond a aussi accepté qu'on ait une petite conversation à la fin de l'émission pour dresser un premier bilan de son action comme député qui vient d'être réélu il y a quelques mois pour un deuxième mandat. Donc, on se retrouve après la pause publicitaire, puis on amorce notre conversation.
Meubles André Beaulieu fête ses 50 ans et vous réserve une surprise incroyable. Participez à notre concours Voyagez où vous voulez grâce à Meubles André Beaulieu et gagnez un crédit voyage de 5 000 $. Inscrivez-vous dès maintenant sur meublesbeaulieu.ca pour tenter votre chance. Préparez-vous à vous évader vers des destinations de rêve, à découvrir de nouveaux horizons et à vivre des moments inoubliables. Ne manquez pas cette occasion unique. Rendez-vous sur meublesbeaulieu.ca et inscrivez-vous maintenant. Voyagez où vous voulez grâce à Meubles André Beaulieu. Le tirage se fera le 22 juin.
Développement économique Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web.
Pour offrir un bon retour à la maison, ben faut de l'excellente musique, faut des informations aussi, puis un petit peu de niaiserie. Mon nom est Valérie Ferland, je suis en compagnie de Sylvain Rochon du lundi au jeudi dès 15h30 pour Valérie l'après-midi. On espère que vous allez être là.
Parce qu'il vous a aimé, qu'il vous a protégé, parce qu'il vous a montré à patiner ou à cuisiner, parce qu'il vous a appris à pêcher et à pédaler, le 18 juin, vous avez envie de le remercier. La bijouterie diamantaire Kittner a tout pour le gâter, au 50 rue Augusta. Pour le toucher droit au cœur, c'est Kittner.
Le Festival Bière, Vin et Terroir, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, vous invite à vous procurer vos billets pour participer aux 5 à 7 du festival qui aura lieu le vendredi 30 juin, dans une ambiance festive, sous un chapiteau situé dans un paysage bucolique en bordure du fleuve Saint-Laurent. Vous dégusterez des bouchées gastronomiques, des bières et des vins exclusifs et vous serez accompagné en musique par Madiba King et le Jazz Street Boys. Il n'y aura pas meilleure façon de débuter la 4e édition du festival. En vous procurant vos billets, vous obtenez votre bracelet et votre verre officiel pour toute la durée du festival. Ils sont en vente sur bière20terroir.com, à la Chambre de commerce, à la Grange à Houblon et à CJSO 101.7. Faites vite! Le nombre de billets est limité. Bon festival!
Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu, du comité des usagers Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Marion.
Alors, on va vraiment essayer de comprendre les enjeux de la question qui tourne autour des services qui sont offerts à nos concitoyens qui sont en situation d'itinérance. Je vous l'ai dit, j'ai Jean-Bernard Raymond, le député de Richelieu, qui est avec nous. Bonjour Jean-Bernard, merci d'être là.
Bonjour, c'est un plaisir.
J'ai également deux personnes de la Porte du Passant qui vont d'ailleurs nous expliquer un peu leur travail. Marie-Josée Avril, qui est la directrice générale. Bonjour Marie-Josée, bienvenue.
Bonjour à vous deux.
Et Alexandrine Boisvert, qui est chargée de projet au volet itinérance et qui est aussi superviseure clinique à la Porte du Passant. Bonjour Alexandrine, bienvenue.
Bonjour.
On a toujours pensé, je pense, dans une certaine mesure, que la question de l'itinérance, de façon générale, c'était une situation qui était vécue dans les grandes villes. C'est particulier cette semaine, par hasard complètement, avec des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu. On me disait combien Saint-Jean-sur-Richelieu avait à traiter de cette question-là et à mobiliser des partenaires pour répondre aux besoins des gens qui sont en situation d'itinérance. Et nous, en novembre dernier, il y a eu un moment où je pense que la région a pris encore plus conscience que la situation avait changé. Et il y a eu une grande mobilisation puis un soutien au travail de la Porte du Passant qui a permis, puis on va en parler, puis on va aller plus loin là-dessus, là, qui a permis à la Porte du Passant d'accueillir des gens cette nuit par semaine cet hiver. Donc, essayons de comprendre la situation dans un premier temps. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il? Et comment se vit la situation, y compris à Sorel-Tracy, avec la présence de personnes qui sont en situation d'itinérance?
Donc, on me regarde. Donc, je vais,
Alexandrine.
Je vais débuter, oui. En fait, effectivement, hein, ben, l'itinérance la plus visible, là, c'est celle qu'on voit dans la rue, le fameux monsieur clochard là, au coin d'une rue. Mais par contre, l'itinérance, en fait, ce n'est pas seulement ça. Dans le fond, l'itinérance, c'est d'être sans domicile fixe. Ça veut dire que habiter chez un cousin, chez une cousine ou dans sa voiture, c'est aussi de l'itinérance. Habiter à l'hôtel, c'est de l'itinérance aussi. Donc, quand on parle d'itinérance, c'est vraiment au sens très, très large. Là, c'est pas juste les gens qui dorment à la rue. Ce qui arrive, c'est qu'avec, veux pas, tout ce qui est arrivé au niveau du logement, t'sais, inaccessibilité du logement, hausse des prix des loyers, bien, le phénomène à la rue devient de plus en plus visible, finalement. Fait que c'est vraiment le niveau... On a vu beaucoup, comme vous dites, en novembre dernier, une hausse du phénomène de la visibilité de l'itinérance. Les gens les ont vus, les gens en situation d'itinérance, parce que plus ça va, moins qu'il y a de logement. Fait que c'est ce qui arrive, qu'on a l'impression qu'il y en a plus. Et aussi, à quelque part, c'est vrai qu'il y en a plus, parce que, comme on le dit tout le temps, les appartements, il y en a presque plus. Les prix sont exorbitants. Puis là, ce qu'on a présentement...
Pour une aussi, catégorie de la population particulièrement, là, évidemment.
Bien, ce qui arrive, c'est que le nouveau visage, c'est aussi des familles qui sont en situation d'itinérance. Fait que c'est vraiment un visage qui est méconnu de la population, mais c'est ça, les visages d'itinérance changent avec le...
C'est ça, là, évidemment, vous êtes au front à la Porte du Passant, là, parce que c'est vous qui accueillez très concrètement des gens pour leur offrir à manger, pour leur offrir de l'hébergement. Mais vous n'êtes pas les seuls à vous préoccuper de ça. Il y a une table où il y a un grand nombre de partenaires qui travaillent à cette question-là. Qui sont-ils? Quel est l'objet de ce travail au-delà de ce que vous faites à la Porte du Passant? D'ailleurs, je devrais peut-être vous poser la question d'abord. Les services que vous offrez, quels sont-ils à la Porte du Passant?
Bien, ils sont très larges.
Marie-Josée, oui.
Oui, c'est ça. Ils sont très larges, mais juste pour... Dans l'historique, c'est que là, ça a apparu en novembre plus grand. Et depuis que la Porte du Passant existe, que les gens... Par le passé, ils venaient quand même dormir deux jours à l'organisme parce qu'ils avaient passé la nuit dehors. Fait que nous, ça fait longtemps qu'on est confrontés à le voir, dans le fond, ces gens-là en situation d'itinérance. Fait que c'est ce qui a fait que quand on a déménagé dans ce local-là, on a essayé d'adapter le plus possible, d'avoir une douche accessible, d'avoir le téléphone d'accueil pour ces gens-là qui n'ont pas de téléphone pour qu'ils puissent recevoir les téléphones. Fait qu'on avait déjà en morcé, je pourrais dire, pour en venir où ce qu'on est aujourd'hui. Là. Et pour revenir à la table de concertation d'itinérance Pierre de Sorel, c'est tous des acteurs là, qui sont là, ces acteurs, les directeurs et directrices qui siègent chez Tableau. On a aussi, Alexandrine, tu peux m'aider, on a, ben enfin, les gens de l'ancrage, les gens de la maison des jeunes, la maison Le Passeur, là j'ai peur d'embouiller.
Mais oui, non, mais ce que ça dit, c'est qu'il y a plusieurs. Puis Jean-Bernard, la ville de Sorel-Tracy, puis t'étais aussi membre de cette table-là. Il y a une préoccupation de la part du député à la question. C'est ce que je comprends. Pourquoi Jean-Bernard s'intéressait à cette question-là quand on est député de Richelieu?
Ben écoute, je pense que c'est devenu un incontournable. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, hein, le phénomène de l'itinérance, il prend malheureusement de l'ampleur partout au Québec et notre région n'y fait pas exception. Vous avez cité la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et j'avais justement cette discussion-là, voilà, à peu près un mois et demi, avec Louis Lemieux, le député caquiste de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'il y avait un grand mouvement de mobilisation qui s'organisait dans cette région et Marie-Josée et Alexandrine pourraient le confirmer, mais je vous confirme que c'est partout au Québec. Ça a été longtemps un phénomène des grands centres. Maintenant, les villes de région, même les plus petites villes, doivent traiter du phénomène de l'itinérance. Puis, vous l'avez dit tantôt, hein, dans la région, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui a été mis en lumière là, avec la malheureuse photo de novembre dernier qui a circulé sur les réseaux sociaux, sur laquelle on voyait des personnes itinérantes installées sur le terrain de la bibliothèque. Et c'est ce qui a amené, là, avec les réseaux sociaux et les médias locaux, pour la population, apprendre, on dirait qu'ils prenaient connaissance là, tout d'un coup que ce phénomène existant était bien là. Puis c'est à la suite de ce mouvement. Puis moi, je veux saluer aujourd'hui là, le travail de la ville de Sorel-Tracy, du maire Patrick Péloquin, mais également, bien sûr, de Marie-Josée et de tout le groupe de concertation, parce que rapidement, tout le monde s'est mis ensemble. De mon côté et avec la ville, c'était une aide de financière, bien entendu. Marie-Josée nous a expliqué clairement les montants dont elle avait besoin pour agir d'une manière rapide, une situation d'urgence, pour être en mesure d'offrir un refuge durant les mois les plus froids de l'hiver.
Bien justement, alors, que vous aviez, à ce moment-là, tous ensemble, là, à la table, vous aviez bien vu qu'il y avait un besoin. Cette photo à laquelle fait référence Jean-Bernard, a été importante. Des fois, il y a des images qui marquent. D'après vous, la réaction de la population, ça a été une réaction de choc ou une réaction de soutien quelque part? Comment avez-vous, puis Jean-Bernard, peut-être de ton côté, tu as dû avoir des échos aussi de ça. Est-ce que les gens sentaient l'importance de se préoccuper de cette situation-là?
Beaucoup. Puis ce qui a aidé, nous, on était quand même installés. On avait plusieurs lits de gens installés. On a 14 lits disponibles pour que les gens puissent venir dormir. Fait que c'était facile de juste demander, parce qu'on avait toujours ouvert depuis un an et demi dans un projet pilote. On avait juste 3 jours avec un financement.
Donc, 3 nuits sur 7.
Oui, c'est en plein ça. Fait que c'est là où, avec la photo, puis après ça, quand j'ai levé la main pour dire, bien, on est déjà tout installé, quand je les ai approchés, ça a été facile là, pour le financement, parce qu'on était prête à, on l'a dit. Puis ce qui a été le fun, c'est que la TAM, tous les partenaires de la TAM ont choisi que la Porte du Passant soit porteur du projet. Fait que, tu sais, quand tu te fais reconnaître par les pairs, c'est le fun. Puis après ça, bien, ça l'emmène plus loin aussi, c'est facile. Bien, c'est facile. Il faut le demander, puis il faut que les gens aient l'argent, mais c'est facile de faire confiance à un organisme quand tu dis qu'il y a 15 personnes dans une table avec tous des directeurs directifs qui disent bien, la Porte du Passant peut le prendre. Je pense que ça l'aide. Puis en plus, il y a beaucoup de citoyens qui ont fait beaucoup de pauses sur Facebook, puis qui le nommaient, la Porte du Passant. Fait que quand on est nommé par les gens, les pairs dans le communautaire, puis en plus par
la population.
La population, fait que... Je veux pas, c'est plus facile à faire confiance à des gens qui sont solidement établis.
Là, qu'est-ce que ça a amené, le financement qui a été offert là, par le député puis par la ville? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire cet hiver? Dans un premier temps, j'imagine qu'il y a une question de ressources humaines là-dedans.
On a été énormément chanceux. C'est un amalgame de plein de... Ça s'est tout rentré facilement.
Pour que ça fonctionne.
Pour que ça fonctionne. On a affiché, puis 2 jours après, les EV avaient rentré. On a passé l'entrevue pas longtemps après, puis je pense que 2 semaines après, on est ouvert là, pour les 4 autres nuits. Ça a super bien été. Puis c'était des gens qui avaient des fois des jobs qui retournaient à autre chose l'été prochain, comme là. Fait que là, j'ai perdu de la ressource parce qu'ils repartaient dans leur... Mais j'étais campagne bien, bien chanceuse. On était capable d'ouvrir. Puis en plus, quand il y a eu fait des grands, grands froids, on s'est mobilisé dans l'équipe, on a changé nos horaires, puis il y en a qui sont rentrés les fins de semaine pour faire le 24 heures au complet au lieu d'avoir des petits moments. Là, parce que le samedi-dimanche, malheureusement, on n'a pas de financement. Fait qu'on n'est jamais ouvert le jour de samedi-dimanche. Mais on ouvrait à 8 heures le soir, mais pour éviter qu'ils passent toute la journée dehors à moins 40, on s'est mobilisé, puis il y a des gens de d'autres organismes qui ont embarqué.
Je me souviens, on s'était parlé justement parce que je souhaitais aborder cette question-là ici. On s'était parlé à ce moment-là et très, très rapidement, on voyait que la température était pour baisser beaucoup et que ça aurait un impact sur des gens qui vivent dehors, évidemment, comme de raison. Alors, ce que tu dis, c'est qu'il y a eu une mobilisation, y compris des employés. Ce qu'on avait compris à ce moment-là, c'est que les employés s'étaient dit, bien, regarde, on va y aller, nous autres, on va le faire.
Ça s'est mobilisé. Même oui, c'est facile quand tu as une équipe qui est très mobilisée. Là. Fait qu'on était capable de se revirer de bord, puis on était en d'ouvrir 24 heures. Là. pendant plusieurs jours, pendant les grands froids.
Est-ce que vous dressez un bilan de l'action que vous avez eue cet hiver? Comment vous le voyez, le bilan de la situation? Ça a été un succès, cette ouverture-là, cette nuit par semaine?
Oui, c'est ça. Moi, je rajouterais aussi au niveau, pas quantitatif, mais qualitatif, c'est que l'ouverture 7 jours faisait que certaines personnes qui hésitaient, parce que quand on était ouvert seulement 3 jours, il y avait encore 4 nuits à combler. Certaines personnes restaient dans des, tu sais, on dit des toits non sécuritaires. Là, des fois, il y a des dames qui pouvaient aller rester avec un monsieur en échange de services pas très gratifiant là, pour pouvoir avoir un toit sécuritaire en sachant qu'il y avait le 7 jours ouvert puis que c'était là pour rester. La personne décidait de quitter ses foyers qui n'étaient vraiment pas positifs finalement. Fait qu'au-delà du quantitatif, il y avait vraiment le fait qu'il y a des personnes qui se sont dit « Enfin, j'ai un endroit, je peux quitter cet endroit malsain-là pour moi puis je peux aller vers un toit sécuritaire. » Oui, c'est ça, il y a tout ce volet-là. Puis le volet de, tu sais, un toit où est-ce que les gens consomment, quand la personne est déjà à la lutte à la consommation, elle se dit, bien, au moins, j'ai un toit qui est sécuritaire, c'est propre, j'ai un endroit où jaser avec des intervenants cette nuit. Donc, juste ça avait vraiment, ça a vraiment modifié les situations de vie des gens, puis on était capable de beaucoup plus les aider à se retrouver un toit adapté pour eux autres. Parce qu'on a été dans un continuum de services.
Jean-Bernard, le bilan que tu fais, toi, du soutien que tu as apporté, il est positif quand tu entends ce qu'Alexandrine et Marie-Josée viennent de dire?
Ah oui, tout à fait. Je retiens premièrement la vitesse avec laquelle le milieu s'est mobilisé, le milieu communautaire, l'équipe de Marie-Josée, mais aussi le milieu politique ou administratif. Parce que vous le savez très bien, Denis, essayer d'avoir des sommes dans des programmes gouvernementaux, ça peut parfois être le parcours du combattant. Très rapidement, moi, j'ai usé de mon discrétionnaire, mais j'ai également contacté le ministre Lionel Carman, également Mme Chantal Rouleau, qui ont décidé de mettre de l'épaule à la roue. Alors, ensemble, on a amené quelque chose comme 16 000 $. La Ville a embarqué pour un montant assez important de 28 000 $. Donc, Marie-Josée a pu bénéficier rapidement d'une aide d'environ 44 000 $ dans des délais qui, habituellement, ne se voient pas là, lorsqu'on demande une aide financière gouvernementale ou municipale. Maintenant, pour la suite des choses, c'est un bilan très positif, bien entendu. On a déjà eu une rencontre de suivi Marie-Josée et moi, à cet effet-là. Puis moi et mon équipe, on est là pour l'accompagner pour la suite des choses, pour tenter de pérenniser le tout, pour ne pas se faire prendre année après année, à apprendre de nos expériences de l'automne et de l'hiver dernier, pour que plus jamais, ou en tout cas le moins possible, à Sorel-Tracy et dans la région, on ait des personnes qui malheureusement soient impactées par les rigueurs de l'hiver là, lorsqu'ils sont en situation d'itinérance.
Bien, justement, de l'autre côté de la pause, on va aller à la pause publicitaire, mais de l'autre côté, on va regarder l'avenir. On va justement évoquer ce dont tu viens de parler, Jean-Bernard, puis on va regarder qu'est-ce que ça veut dire pour la région, pour l'avenir.
Le comité des usagers Pierre Sorel a pour mandat de promouvoir la qualité des services et d'accompagner les usagers dans leur représentation auprès du CI3S de Sorel-Tracy. Il est là pour défendre les droits et les intérêts des usagers, intervenir sur les situations à corriger, améliorer les conditions de vie et la qualité des services. Le comité des usagers Pierre Sorel travaille en collaboration avec le commissaire aux plaintes afin que l'aménagement des lieux, les horaires, la nourriture et les activités et traitements soient adaptés pour les usagers. Appelez-nous au 786-6008 pour tout renseignement.
La fin des classes, c'est l'occasion de saluer nos finissantes et finissants. Chez Bonbon Dila, des idées cadeaux, on en a. Venez vous sucrer le bec et jeter un œil à nos coupes en verre ornées d'un chapeau de finissant, de même qu'à notre vaste collection de ballons à l'hélium pour colorer vos balles de finissant. Bonbon Dila, 625 route Marie-Victorin.
Jusqu'au 30 juin, CJSO vous invite à participer au concours « As-tu ton logo CJSO sur ton auto? » En magasinant chez les commerces participants, on vous remettra un logo CJSO. Vous serez éligible au tirage de 5 prix de 100 $ en essence. CJSO vous invite à afficher vos couleurs en collaboration avec
Le Garage La Chapelle, Location FGL, Ordigénie électronique et informatique et GMS Autoclinique.
Le tirage se fera le 4 juillet dans l'émission Valérie l'après-midi. CJSO vous souhaite bonne chance.
C'est la fête des pères et vous voulez offrir quelque chose que papa va utiliser? Location FGL a ce qu'il vous faut avec des équipements style en promotion. Trouvez-y la CHN MS-170 avec une économie de 100$, le souffleur PG-50 avec un rabais de 60$ et la débroussailleuse FS-38 avec une réduction de 50$. La promotion printanière de style se poursuit jusqu'au 30 juin. Vous hésitez entre essence et batterie? Nous allons vous aider à faire un choix éclairé. Location FGL, ouvert en semaine jusqu'à 17h30 et 17h de samedi.
Parce que le monsieur dans le stationnement qui reculait pensait plus à son choc à toi. Parce qu'un ovni est tombé directement sur ta voiture, il y a Lucier. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Nous, oui. Visitez lucier.co. Lucier, l'assurance de 100 ans d'expérience. Parce que ton ado dans la voiture a confondu le D puis le R de l'embrayage. Parce qu'un gorille géant a décidé de jouer aux petites autos avec la tienne, il y a Lucier. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Nous, oui. Visitez lucier.co. Lucier, l'assurance de 100 ans d'expérience.
Cette première est une présentation de Lucier, Développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu, du Comité des usagers Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. Parce qu'un débat, ce n'est pas une chicane, mais bien une façon de faire avancer les choses. De retour à Tête Première avec Denis Marion.
Alors, comme je vous le disais avant la pause avec Jean-Bernard Raymond, le député de Richelieu qui est avec nous, on a commencé et avec les gens de la Porte du Passant, là, je suis avec Alexandrine Boisvert et Marie-Josée Avril de la Porte du Passant, on a regardé ce qui s'était passé cet hiver. Maintenant, il y a devant, puis Jean-Bernard a même évoqué la question de ne plus être pris à court par des crises. Mais commençons par l'été. Alexandrine, je comprends qu'avec la crise du logement, il y a des enjeux auxquels même la Porte du Passant pourrait être, auxquels vous pourriez être confronté. Est-ce que c'est réel? Donc, il y a quelque chose l'été aussi?
Oui, bien, on pense toujours que, dans le fond, là, on pense, mon Dieu, va faire froid, les grands froids arrivent, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais aussi, l'été, bien, faut y penser parce qu'il y a le 1er juillet, puis plus ça va, plus c'est difficile. Puis l'année passée, on a vraiment été surpris de voir le nombre de familles qui sont tombées en situation d'itinérance. Et bien, c'est sûr que nous...
Mais ici aussi, dans la région?
Ah, tout à fait.
Tu sais, on a l'impression que ce que tu nous dis là, moi, mon sentiment, c'est que c'est des affaires qui existent dans les grandes villes, là. Mais ça existe chez nous aussi?
Oui, tout à fait. Puis des fois, les personnes sont mal prises. C'est pas nécessairement financièrement, c'est vraiment des enjeux de relocalisation parce qu'encore une fois, il n'y en a pas de logement. Fait que la personne, elle se retrouve devant rien. Puis quand ils sont trois ou quatre, chez une madame, ma tante qui a un 3,5, c'est correct une semaine, mais ça marche plus. Là. Fait que dans le fond, c'est vers nous qui se dirigent parce qu'ils savent plus où aller. Nous, on a été chanceux l'année passée. Là, sur une des familles qui est venue, on a eu une personne dans notre logement de transition. On aurait été capable de les installer là. Puis c'est des gens que ça a pris même pas 2 mois qu'on a retrouvé un logement. Mais
2 mois?
Mais 2 mois, oui.
C'est long, 2 mois, là.
Tout à fait, tout à fait.
Ça m'amène à poser la question du portrait de ces personnes-là. Les choses ont changé, notre société a changé, notre vie a changé, qui nous sommes, c'est différent. Tu vois l'évolution comment? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a qui nous amène à voir ce phénomène-là de façon plus importante?
Bien, c'est sûr, culturellement, au Québec, c'est ça. Là, avant, on avait des grosses familles où est-ce que les gens y étaient habitués à être... 4 gars d'un bord, puis les 7 filles de l'autre, puis quand il y avait un mon oncle ou une ma tante qui était pas tout à fait habileté à rester seul, bien, il restait avec la famille, parce que quand il y en a pour 1, il y en a pour 10. C'était les habitudes, finalement, des Québécois à l'époque, puis plus ça va, bien, on est rendu qu'on a un 3,5, 3 voitures, puis un chien, t'sais. Fait que dans le sens que les gens deviennent de plus en plus individualistes, c'est correct, c'est la société comme ça, mais ça fait qu'aussi, bien, les mononcles puis les matantes ou ces gens-là, le frère qui a plus de toit à sa tête, bien, il n'y en a plus de place pour lui. Puis les gens, même si c'est des travailleurs, même s'ils ont des talons de paye, bien, des fois, c'est dans leur auto qu'ils vont dormir, t'sais. Fait que l'itinérance, c'est ça, c'est différents visages, c'est différentes réalités. Puis n'importe qui...
Et c'est des gens de tous âges.
Oui, tout à fait. Puis n'importe qui, du jour au lendemain, qui perd, qui sépare, ben c'est pas tout le monde qui va se revirer de bord. Quand ils sont habitués de payer une hypothèque, 1 200 $ séparé à deux, à revirer de bord, puis finalement, c'est 1 200 $ pour un 3,5 toute seule.
C'est différent.
C'est un autre paire de manches. Là.
Bon. Jean-Bernard nous a ouvert la porte tout à l'heure là, sur la question de comment on fait pour ne pas gérer des crises, comment on fait pour voir venir. Marie-Josée, quand tu regardes la situation actuellement, à la porte du passant, mais de façon générale, t'as quoi devant toi, là? À quoi tu penses, puis comment on se prépare?
Bien, c'est sûr que mon financement que j'ai, qui est non récurrent avec le Santé et Services sociaux pour le 3 jours, lui, finit le 31 mars 2024. On est déjà après de préparer pour cette partie de financement-là. Mais localement aussi, là, on est après de monter monter les sommes qu'on aura besoin. Là, on a la chance pour cet été, pour ne pas demander du double de financement. Là, cet été, j'ai un petit restant de financement qui me restait de l'an passé que je peux passer pour mon séjour là, pour le mois de juillet. Fait que, mais rapidement, je vais rencontrer mes partenaires là, avec mon petit dépôt et mes discussions pour avoir du financement. Je ne m'attends pas à ce que des engagements à 10 ans. On va y aller au début, tranquillement, pas vite, pour faire de plus en plus notre place. La bonne nouvelle, c'est qu'on vient de recevoir nos lettres patentes. Nous, on a toutes fait changer au niveau des registres d'entreprise, aussi avec le gouvernement, pour avoir des lettres patentes. On a fait notre AGE. Nos membres, ils ont accepté de changer notre appellation.
Qui va être quoi?
Bien, qu'on rajoute hébergement d'urgence. Mais okay. J'ai toujours la sécurité alimentaire, l'inclusion des personnes, activité, éducation populaire. Puis là, on a rajouté hébergement d'urgence aussi. Fait que là, ça va aider éventuellement pour des financements, parce que quand tu fais une demande de financement, même si le nom, la porte du passant, emmène quand même une idée qu'il va y avoir des gens en situation d'itinérance chez nous, sauf que sur mes lettres d'attente, c'est en sécurité alimentaire. Fait que c'était plus difficile. Fait que là, ça, c'est le côté...
Vous avez cette longue tradition d'être en mesure d'offrir des repas aux gens,
oui,
là.
C'est en plein ça. Et puis c'est ça, c'est resté. C'est encore... En fait, c'est comme ça c'est comme ça que les gens demandent de l'aide. Parce que des fois, tu vas dormir dans ton auto, tu vas aller te chercher des trois ailleurs, mais quand tu as faim, à un moment donné, tu as faim. Puis là, nous, ils mangent avec nous. C'est un milieu de vie, c'est une activité. Bon. Fait que c'est tout ce beau côté-là qui fait que les gens restent plus longtemps avec nous.
Parce que là, effectivement, on parle d'hébergement d'urgence, on parle de sécurité alimentaire, donc on parle de possibilité pour les gens d'avoir des repas, mais... Ce que je trouve intéressant dans l'idée de la table, c'est que vous êtes plusieurs organisations et vous êtes plusieurs à pouvoir aider à différents aspects de la vie de ces personnes-là. C'est clair qu'on doit respecter ce qu'ils sont. Ce sont pour la plupart les gens qui vivent dans la rue, ce sont souvent des personnes plus marginalisées, plus marginales, qui ont des parcours de vie qui leur appartiennent et qu'on doit respecter. On doit, dans une certaine mesure, comme société, leur offrir des porte d'accès quelque part pour changer leur situation si elles le souhaitent. Est-ce que notre région est bien équipée pour accompagner les gens vers autre chose?
Le SRA, un petit peu.
Le SRA?
Soutien résidentiel avec accompagnement. Ça fait 15 ans qu'on a ce financement-là. C'est les intervenants quand la personne décide de changer...
Chercher à quitter la rue, là, si je dis ça. Là,
On est là à ce moment-là pour récupérer leur identité, récupérer leur carte d'assurance maladie, tout faire le côté. Puis on a des nouveaux départs, c'est deux logements qu'on appelle nouveaux départs, où on les loge entre 24 heures et 3 mois, le temps qu'on leur trouve un logement. Et c'est le rôle des intervenants à ce moment-là d'accompagner les...
Et ces intervenants-là, ils sont associés à qui?
À la porte du passant.
À la porte du passant aussi,
nous,
chez vous.
On a la grande chance d'avoir tout sur le même toit. Parce que dans d'autres municipalités, ben, tu as le centre de jour, c'est un organisme en équipe, puis le centre de nuit, c'est un autre organisme qui s'en occupe, le halle de repos ou la halle de fraîcheur, ça dépend, ou parce que où est-ce qu'il y a des tentes avec des réchauds, là. Nous, on a toute la chance d'avoir tout sur le même toit. Fait que c'est ça qui est agréable, parce que c'est facile de référer. De jour ou de nuit, ils vont avoir de l'aide. Les taxis nous les réfèrent, les policiers sont en partenaire avec nous. C'est devenu la place où ce que les gens... Bien, va manger à porte passant. Il y en a des partenaires qui achètent des repas, qui donnent des repas gratuits à la personne. La personne arrive avec une carte, on le sait à ce moment-là que c'est parce qu'il a été évalué par quelqu'un X, puis qui dit, bien, va à porte passant, ça va avoir de l'aide. C'est là le rôle des intervenants, de manger avec eux, puis de rattraper où est-ce qu'on peut les aider.
Et là, il y a des intervenants qui peuvent paraître surprenants. Là. Tu viens d'évoquer, Marie-Josée, la Sûreté du Québec, par exemple. Alors, quel type d'action la Sûreté du Québec fait avec vous dans cette question-là?
Ah, bien, facile, dans le sens que des fois, ils arrivent sur de l'itinérance spontanée, que je pourrais dire. J'aime pas le mot, mais il reste qu'il arrive sur une chicane entre l'homme et la femme, puis là, bien, il faut qu'il sépare l'homme et la femme le soir. Fait que des fois, il arrive avec une dame ou des fois, il arrive avec un homme avec l'auto de patrouille, puis ils viennent jaser puis les laisser à la porte du passant pour les rattraper. Il y a eu deux accidents cet hiver où que la personne, dans une tempête de neige, la personne n'avait pas d'argent avec elle, elle ne pouvait pas s'en aller à l'hôtel, les policiers l'ont emmené chez nous. Là, finalement, le lendemain, ses parents sont venus le chercher. Là. Mais c'est tout ça des choses inattendues, que je pourrais dire.
Et relativement invisibles pour nous. Là. Ben oui, c'est des choses qu'on ne sait pas. Je me tourne vers Jean-Bernard. Jean-Bernard, ça fait déjà un bout de temps que tu es député. C'est des situations que... Qui t'ont surprise de constater cette détresse dans une certaine mesure? Qu'est-ce que ça te dit?
Bien, à mon arrivée en poste en 2018, oui, c'était un choc et une surprise pour moi. Par contre, tu conviendras avec moi, Denis, qu'il y a quelque chose de rassurant quand on écoute Marie-Josée et Alexandrine. Elles sont toutes les deux la preuve qu'on a la chance de pouvoir compter sur un organisme qui a une expertise assez incroyable et variée dans le domaine. Donc ça, c'est très rassurant parce que tantôt, on parlait des autres régions de Travail Québec. Nous, on est quand même chanceux de pouvoir compter sur ces personnes-là qui ont le cœur sur la main, qui sont déjà bien implantées puis qui regardent vers l'avenir. C'est pas anodin, tantôt, ce que Marie-Josée a dit en disant que c'est un travail qui est parfois ingrat et très administratif, là, mais avec son conseil d'administration, la volonté d'ajouter dans des lettres patentes, de conserver le mandat de sécurité alimentaire, mais d'ajouter l'hébergement temporaire, là, elles viennent de s'ouvrir des portes un petit peu plus larges pour un financement qui va être en mesure de les aider. Mais pour répondre à ta question, oui, moi, ça a été une surprise et un choc à mon arrivée en poste de voir, parce qu'on le voit un peu comme citoyen parfois, là, en faisant nos courses ou en se promenant à travers la municipalité, la ville, particulièrement dans le centre-ville, hein, on doit se le dire, de voir des personnes qui sont, ou on pense qui sont en situation d'itinérance, mais il y a beaucoup d'itinérance invisible, comme Alexandrine disait tantôt, et des gens, de plus en plus, là, vous avez parlé de la crise du logement, le 1er juillet s'en vient, ça amène son lot de complications. Je prends 20 secondes pour vous dire qu'il existe, puis je m'adresse aux auditeurs, hein, auprès de l'Office d'habitation Pierre de Sorel, un service d'aide à la recherche de logement. Alors, les gens peuvent c'est un service d'accompagnement pour les personnes qui n'ont pas de logement ou qui voudraient avoir de l'accompagnement. Ils peuvent les appeler au 743-5900. Ils vont assurément être très occupés dans les prochaines semaines.
Oui, tout à fait. La directrice de l'Office municipal d'habitation disait, on a parlé de la crise de l'habitation ici récemment à l'émission, et notre taux d'inoccupation est en bas de 1%. Et dans ce moins de 1%-là, ce sont souvent des logements qui sont inabordables pour une bonne partie de la population. Puis on a beaucoup parlé des enjeux, évidemment, d'habitation, parce que c'est la question de l'hébergement est fondamentale. Là. Avoir un toit sur la tête, c'est important. Mais on pourrait probablement parler des enjeux de santé. Les gens qui particulièrement les personnes qui vivent dans la rue, les statistiques démontrent que ces gens-là ont une espérance de vie de plus de 10 ans de différence avec vous et moi qui avons un toit sur la tête. C'est un impact majeur sur leur vie. On sait qu'il y a des enjeux de santé mentale et dans les partenaires que vous avez, il doit y avoir aussi des portes qui s'ouvrent vers du soutien de ce côté-là aussi.
Bien, pour le moment, non, mais on a quand même été dans une rencontre. On espère un jour d'emmener le médecin de rue ici à Sorel. Là, je travaille sur un gros dossier pour ça.
Bien, Marie-Josée, on va se donner un rendez-vous. On pourra reparler de ça. Écoutez, je veux remercier mes deux invités de la Porte du Passant, Marie-Josée Avril, que vous venez d'entendre, Alexandrine Boisvert. Merci beaucoup. Je pense qu'on comprend un petit peu mieux la situation qui est assez complexe.
J'ai plus de temps, hein?
Non. Okay. Mais tu veux dire quelque chose? Vas-y vite.
En fait, c'est juste qu'il y a certains propriétaires, qu'il y a des employés qui travaillent chez eux, qui voient qu'ils ont des situations. Je n'ai pas de les référer. On l'a vécu dernièrement, puis mes petits gars de nuit lavent leurs uniformes le temps qu'ils dorment pour qu'ils retournent travailler le lendemain.
Merci.
J'en ai pour les propriétaires.
Puis Jean-Bernard, tu restes avec moi. On poursuit la conversation, toi et moi, de l'autre côté de la pause publicitaire.
Au garage AGM Le Spécialiste, nous sommes les spécialistes pour les freins, silencieux, suspensions, injections et mécanique générale. Garage AGM Le Spécialiste, 95-25, Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Toute l'équipe en profite pour vous souhaiter un très bel été.
Votre région vous tient à cœur.
Vous êtes de ceux et celles qui désirent être à l'affût des dernières décisions de vos élus. Ne manquez pas votre rendez-vous mensuel, la chronique du préfet de la MRC, en compagnie de Sylvain Dupuis, tous les vendredis suivant le conseil de la MRC à 7h40, uniquement sur les ondes de CJSO.
Développement économique, Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web.
Meubles André Beaulieu fête ses 50 ans et vous réserve une surprise incroyable. Participez à notre concours Voyagez où vous voulez grâce à Meubles André Beaulieu et gagnez un crédit voyage de 5 000 $. Inscrivez-vous dès maintenant sur meublesbeaulieu.ca pour tenter votre chance. Préparez-vous à vous évader vers des destinations de rêve, à découvrir de nouveaux horizons et à vivre des moments inoubliables. Ne manquez pas cette occasion unique. Rendez-vous sur meublesbeaulieu.ca et inscrivez-vous maintenant. Voyagez où vous voulez grâce à Meubles André Beaulieu. Le tirage se fera le 22 juin.
Les 20 hits de la semaine au décompte Top 20.
Salut, ici Bob Péloquin. Voici le numéro 1 cette semaine.
Numéro 1! You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far.
Le Top 20.
Vendredi soir, 19h, en rappel le samedi, 14h. À CJSO 101.7, au rythme de la région.
Tête première est une présentation de Lucier. Développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaulieu, du comité des usagers Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Marion.
Ben Jean-Bernard Aymon est avec moi, député de Richelieu. Merci Jean-Bernard, qu'on va poursuivre la conversation, toi et moi, si tu le veux bien. Pour cette dernière partie de l'émission, j'ai d'abord envie, très sincèrement, de te demander comment ça va après, au sortir de la session parlementaire qui vient de se terminer. Pas trop fatigué, c'est beaucoup de travail. Comment es-tu?
Bien, ça va bien, merci de demander. Tu as raison, la session parlementaire s'est terminée vendredi dernier. Les dernières semaines sont toujours particulièrement un peu plus éprouvantes parce qu'on appelle les travaux intensifs. Hein. On est en chambre souvent de 8h le matin à 22h30 le soir afin d'accélérer l'adoption des projets de loi. C'est ma cinquième année hein, après un premier mandat comme parlementaire. Puis on est un peu bicéphale quand on est député, j'ai découvert ça, parce que on partage la moitié de notre temps, de notre cœur, de notre cerveau entre l'Assemblée nationale à Québec et la circonscription dans la région. Moi, je ne vais pas te cacher, puis je le dis souvent, là, je me considère comme un régionaliste. Hein. Je suis en politique provinciale pour tenter, à ma façon, d'amener des projets dans notre région, de faire avancer notre belle et grande région. Quand je suis à Québec, je prends mon rôle de législateur avec beaucoup de sérieux, mais c'est également un moyen pour moi de tenir des rencontres et de travailler fort pour faire atterrir des projets dans le comté.
Écoute, tu as été réélu en octobre dernier, justement, pour un deuxième mandat. Parlons d'abord, effectivement, d'ici. Parlons de la région. Qu'est-ce qui a dominé ton travail ici dans le comté de Richelieu, à Sorel-Tracy, dans la région, depuis ta réélection au mois d'octobre dernier?
Bien, comme c'est un deuxième mandat, c'est beaucoup sur le signe de la continuité. Hein. Il y a des projets qu'on avait entamés qui ont connu leur aboutissement suite à l'élection d'octobre dernier. Pardon. Pour vous en nommer quelques-uns, je débuterai avec le 10 millions de dollars qui a été octroyé pour appuyer la décontamination, l'aménagement et la réhabilitation du terrain qui sont situés stratégiquement là, dans la zone industrielo-portuaise, qu'on appelle le parc Lugis-Simard de la Société des parcs Pierre de Sorel. Sinon, je peux également parler, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'un projet de 1,75 million de dollars pour soutenir la création d'un programme de formation professionnelle en usinage à Sorel-Tracy. C'est un programme qui est offert au Centre Bernard Gariépy et c'est un très beau succès. Là. Ça visait à arrimer les entreprises avec le Centre de formation professionnelle On a également inauguré le nouveau centre communautaire de Yamaska. C'est un projet de 800 000 $ là, au plus grand bonheur de la mairesse de Tonancourt. Sinon, peut-être parler également des 350 000 $ à l'organisme L'Orientec. On a dévoilé des investissements majeurs en compagnie de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault et ministre des Transports, des investissements majeurs pour les deux prochaines années pour le réseau routier. Soyez à l'écoute, lundi prochain, je vais procéder à l'annonce de l'ouverture officielle d'un bureau du ministère des Transports qui vient s'implanter enfin à Sorel-Tracy. Là, c'est une très bonne nouvelle pour la région. Sinon, écoute, 100 000 $ à la Marina de Sorel pour léguer l'annonce du fonds local et on pourrait continuer comme ça pour le reste de l'émission.
Oui, tout à fait, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de sous là, qui est impliqué dans le travail que tu fais. Quelle lecture tu fais de la région là aujourd'hui? Je fais plusieurs fois, je l'écris dans les deux rives, je l'ai dit ici. Il me semble que ça bouillonne, il me semble qu'il y a plein d'affaires positives qui se passent. Tu as le même sentiment ou puis quel rôle t'entends jouer là-dedans? Quel genre de leadership tu veux assumer, Jean-Bernard, comme député dans ce qui est en train de se passer actuellement?
Ben écoute, j'ai fait la même lecture que toi et que beaucoup de personnes font. Une lecture à l'effet que c'est vrai que c'est en ébullition présentement dans la région. Le vent sent bon, comme mon père disait, là, le vent est favorable. J'en prends acte. Tu me disais quel rôle je peux jouer là-dedans dès mon arrivée en 2018 et tôt en 2019. J'avais mis sur pied une séance pour revoir la gouvernance du développement économique local, ce qui a mené à la création de développement économique Pierre de Sorel. Et on voit que présentement, les choses sont en train de se mettre en place sous l'impulsion de David Place. Et surtout, j'aimerais dire, là, la franche entente et camaraderie qu'il y a entre la ville de Sorel-Tracy, développement économique Pierre de Sorel, la Société des parcs, la Chambre de commerce. Donc, tout le monde pousse vraiment dans le même sens. Et il y a de très belles annonces au niveau économique à venir dans la région à ce niveau-là.
Bien, on a vu l'importance qu'a prise la mission de plusieurs personnes dans la région dans le dossier des chantiers navals, la mission qui s'est passée en France, qui permettait d'ouvrir des marchés, mais aussi de repositionner Sorel-Tracy dans la filière de la construction navale. C'est quand même des ouvertures assez importantes.
Tout à fait. Et puis, tu sais, Denis, le chantier naval de la Lévis, c'est un chantier national.
Tout à fait.
Les gens de Lévis et le maire Lehouillier a été francs là-dessus. Ils n'y arriveront pas tout seuls. Là.
Exact.
Donc, moi, je salue la volonté. Puis, ils ont été très rapides là, quand je disais que tout le monde agit en concertation. La Ville, Développement économique Pierre de Sorel, la Société des parcs, tout le monde a été très rapide pour s'imbriquer dans le réseau des fournisseurs du chantier de la Lévis. Parce que, comme je le disais, Lévis n'y arrivera pas tout seul. Et on est un peu, si on veut, en compétition avec les chantiers de Colombie-Britannique, mais également des maritimes. Et on a une obligation de résultat, là. Alors, si on peut mettre l'épaule à la roue et avoir ne serait-ce qu'une portion des contrats qui seront octroyés, ça sera des investissements majeurs pour notre région.
Tout à fait. Puis évidemment, la région a fait face et est confrontée quand même à des défis importants. On est comme tout le monde. On vit l'impact de la pénurie de main-d'œuvre. Ça exige beaucoup de travail, de concertation de l'ensemble des partenaires. Puis, on sent là qu'il y a cette volonté de travailler ensemble qui va peut-être faire en sorte que, justement, puis je ne sais pas si tu partages mon point de vue encore une fois, là, mais j'ai l'impression qu'on met plus de chances de notre côté en travaillant de cette façon-là.
Ah, tout à fait, tout à fait. Je veux saluer aussi le travail du chantier d'attraction de la main-d'œuvre, puisque tu as parlé de pénurie de main-d'œuvre. C'est un outil collectif qu'on s'est doté qui nous permet de se démarquer de d'autres régions, puisque tout le monde est à la recherche d'emplois. Il y a une statistique que je voudrais amener, là. On parle beaucoup de l'immigration, de la formation, des travailleurs expérimentés, hein, du retour des personnes qui sont retraitées, mais qui voudraient peut-être revenir sur le marché du travail pour une, deux ou trois journées pour venir combler le phénomène de pénurie de main-d'œuvre. Et c'est important d'agir sur ces chantiers-là. Mais il y a également le chantier de l'automatisation des procédés, là. Parce que uniquement avec ce point-là, c'est près de 40 % de la pénurie de main-d'œuvre qu'on pourrait venir combler. Et moi, j'invite les entrepreneurs qui sont à l'écoute, là, les entreprises, de contacter David et son équipe à Développement économique Pierre de Sorel, puisqu'on a des programmes de soutien financier très intéressant pour les accompagner afin d'accélérer leur processus, la modernisation de leur production, puis faire en sorte, tu sais, Denis, c'est regrettable là, de faire des visites d'entreprise puis voir un employé qui est encore dédié à des tâches très à lever des palettes, à des tâches très cléricales qui pourraient facilement être automatisées et offrir un emploi à une de valeur ajoutée à cette personne-là au sein de l'entreprise.
Tout à fait. Écoute, on est plutôt optimiste actuellement. C'est une très bonne chose de l'être. C'est appréciable. Il y a quand même quelques petites épines dans notre pied. T'as ouvert avec le ministère des Transports tout à l'heure. Je pense pas que les auditeurs me pardonneraient si j'abordais pas la question du pont Turcotte deux secondes. Jean-Bernard, quand la ministre Guilbeault est venue, elle a donné quand même un échéancier assez long là, en disant « Écoutez, c'est pas pour tout de suite, c'est pour bientôt. » On peut espérer effectivement que lorsque les étapes seront définies, on nous les partagera, toi, les gens du ministère des Transports. Est-ce que tu sais à quelle étape nous sommes actuellement dans ce dossier-là?
Oui, c'est un dossier et je te remercie de l'aborder puisque les citoyens nous contactent quasi quotidiennement sur le dossier du pont Turcotte et avec raison. C'est un symbole de fierté, mais c'est également un lien très important entre les deux rives, hein, du secteur Sorel et du secteur Tracy. Puis on parle d'un pont de nature patrimoniale, là, si je ne m'abuse, un pont qui a levier comme ça, qui peut ouvrir là avec cette forme de structure.
Unique semble-t-il.
Et voilà, unique au Canada. Oui, alors voilà, donc. Ce qui vient complexifier, par contre, je dois le dire, le travail des ingénieurs pour procéder à son amélioration, à sa mise à jour. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les équipes du ministère travaillent très fort. La conception du projet est maintenant terminée. C'est-à-dire que les équipes d'ingénieurs se sont entendues et ont planché sur le type d'intervention qui est assez inusité, qui doit être fait. Donc, on s'en va maintenant à l'élaboration des plans et devis. Une fois que ceux-ci seront complétés, le MTQ va pouvoir passer à l'appel d'offres et à l'octroi du mandat et à la réalisation des travaux. Bon, il est important de savoir que la gestion de la circulation, ça va demeurer un grand défi dans ce secteur-là. Mais moi, on me dit que le concept qui a été retenu pour le projet de mise à jour va permettre de réaliser les travaux en limitant les entraves pour les usagers de la route. Et puis là, Denis, il faut agir d'une manière cohérente. On a deux ponts à Sorel-Tracy. Le pont Maurice-Martel nécessite également des travaux d'entretien. Ben oui, majeur, un peu comme le pont La Violette à Trois-Rivières. C'est la dalle de béton de la structure porteuse du pont qui doit être remplacée. Puis là, ben, on va coordonner les travaux pour pas faire nos deux ponts en même temps. Donc, tout ça pour dire que je comprends l'impatience et l'inquiétude des citoyens. La ministre Guilbeault a été claire lors de son passage à Sorel-Tracy. Elle s'est assurée personnellement, à ma demande, hein, parce que c'est ça mon rôle, moi, être le porte-parole des citoyens, puis elle a commencé à me trouver un peu fatiguant à Québec avec le pont Turcotte, mais toujours est-il que la ministre s'est assurée que les équipes travaillent fort pour débuter les travaux le plus tôt possible.
Écoute, tout à l'heure, tu as évoqué les deux volets de ton travail, celui ici dans le comté, puis celui à l'Assemblée nationale. Le gouvernement de François Legault, auquel tu participes, est évidemment à son deuxième mandat. On a l'impression que on a derrière nous la période de la pandémie qui a marqué évidemment votre premier mandat. Le premier ministre disait cette semaine qu'il était un peu surpris du nombre de crises auxquelles il a été confronté. Évidemment, il y a la question du troisième lien à Québec qui, d'une part, a créé de l'insatisfaction dans la région de Québec, mais qui, en même temps, a soulagé, je pense, bien des gens à l'extérieur de la région de Québec, mais qui a posé la question de la confiance quelque part. Les grosses réformes santé, éducation des ministres Dubé, du ministre Drainville, les changements climatiques, Jean-Bernard, dont on se demande un peu où loge le gouvernement. Le premier ministre dit... il faudrait qu'on en fasse plus, mais c'est pas toujours très, très clair. Hydro-Québec, la crise Hydro-Québec. Écoute, on a quelques minutes, là, mais pour terminer, le sentiment que vous avez à Québec devant toutes ces crises?
Ben, écoute, tu es quelqu'un qui connaît suffisamment la politique, Denis, pour savoir que gouverner, c'est prendre des décisions. Prendre des décisions, c'est en prendre parfois qui satisfait, mais qui peuvent également déplaire à une partie de la population. Tu l'as bien dit, hein, depuis notre arrivée en poste en 2018, les crises se sont succédées. la pandémie, mais les inondations, actuellement les feux de forêt. Alors donc, c'est le rôle du gouvernement de gérer ces crises-là. C'est ce qui a beaucoup habité le sentiment là, dans les corridors quand on est à Québec. Le troisième lien, tu en as parlé, moi je dois avouer que dans la région, les gens ne m'en ont pas parlé beaucoup. Et ceux qui m'en ont parlé, c'était plutôt pour se réjouir du changement.
Oui, j'en suis convaincu. Ouais. Je m'excuse de t'interrompre. On arrive à la toute fin de l'émission, mais je veux te remercier, Jean-Bernard, d'avoir passé l'heure avec nous. On aura l'occasion de se reparler puis de poursuivre notre conversation.
Tout à fait. Merci de l'invitation.